Il est encore 6h45 sur France Culture, pour une seconde. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui le gazoduc russe Nord Stream 2, et là il y a de l'eau dans le gaz.
C'est ça, il ne se dérobe plus lui du gaz dans l'eau, en tout cas il y en aura deux fois plus fin 2019 du moins dans la mer Baltique, puisque c'est ce gazoduc Nord Stream 2 qui vient d'être validé par les 28 États membres de l'Union Européenne mardi dernier, un projet controversé qui renforce les positions russes en Europe. Alors outil de l'émancipation européenne ou nouveau motif de discorde, eh bien on voit ça avec vous Angélique Pâle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes chercheur énergie et matières premières à l'IRSEM, enseignante à Sciences Po et à Paris 1. Dans le site The Conversation, justement, vous posez la question, gazoduc Nord Stream 2, est-ce un piège russe ou une nécessité de l'Union européenne? Justement, la Russie, donc premier fournisseur de gaz en Europe, un tiers du marché environ, c'est de Baltique qui fait le lien entre la Russie et l'Europe. Est-ce qu'il y a d'abord une sorte d'évidence logistique pour ce gazoduc ou une nécessité disons économique pour l'Union européenne?
Un peu des deux. C'est-à-dire que ce gazoduc, il est censé doubler le tracé d'un premier gazoduc, Nord Stream 1, mis en service en 2012, utilisé au maximum de ses capacités. Et l'Allemagne, qui est en plein dans sa propre transition énergétique, y voit un intérêt économique et logistique évident à se raccorder directement avec la Russie, notamment pour assurer son approvisionnement en gaz et la croissance de son approvisionnement.
Mais la croissance de l'approvisionnement allemand qui entre en friction avec ce prérequis de diversification des approvisionnements de l'Union européenne dans son paquet énergie. Alors, et également un gazoduc qui arrive dans un contexte particulier. Pourquoi ça a été si long? Je crois qu'il a fallu 14 mois pour arriver justement à un accord des 28 pour le valider enfin.
Oui, en fait, il y a une discorde assez fondamentale autour de ce gazoduc pour deux raisons. La première, elle est économique, c'est-à-dire que la question c'est de savoir qui est le hub gazier européen de redistribution. Les Polonais sont sur les rangs également. Et s'oppose à l'Allemagne sur ce point. Donc il y a une question économique interne à l'Union. Et puis il y a la question aussi externe à l'Union, disons, qui est la question de la diversification des approvisionnements. L'Union européenne est déjà très dépendante de la Russie à 35% du marché. Et les opposants au projet, toujours la Pologne, mettent en avant le fait que la dépendance à la Russie s'accroîtrait avec ce projet et mettrait en péril le transit gazier par l'Ukraine, fragilisant la position ukrainienne vis-à-vis des Russes.
Et de fait, avec ce doublement du transit par la mer Baltique, on atteindrait 110 milliards de mètres cubes, c'est bien ça. Alors justement, en quoi est-ce que ce tuyau, il comporte en lui une modification, on pourrait dire, des équilibres géopolitiques en Europe?
Alors en fait, le transit russe vers l'Ukraine, initialement vers l'Europe, il est initialement assuré par l'Ukraine. Dans les années 2000, on a 140 milliards de mètres cubes qui traversent l'Ukraine pour arriver en Europe. Le début des années 2000, c'est aussi les différents gaziers russo-ukrainiens qui impactent l'Union européenne, avec notamment des ruptures d'approvisionnement en hiver. Et donc, la Russie s'est engagée dans une espèce de stratégie de contournement avec la construction d'un certain nombre de gazoducs. Le gazoduc Yamal, qui traverse la Pologne, 33 milliards de mètres cubes. Le gazoduc Nord Stream 1, à travers la mer Baltique, 55 milliards de mètres cubes. Et là, le gazoduc Nord Stream 2, de la même capacité, 55 milliards de mètres cubes. Et en fait, avec ces trois gazoducs, on aurait une sorte d'alternative technique à l'Ukraine. Donc l'idée, ce serait pour les Russes de faire baisser progressivement la part du transit ukrainien dans l'approvisionnement de l'Union européenne et de négocier directement avec les Européens sans passer par l'Ukraine.
Et alors d'ailleurs c'est assez clair sur la carte que vous avez produite sur cet article auquel on renverra. Alors qu'est-ce qui a inquiété le plus ces derniers mois ceux qui en Union européenne s'opposaient à ce gazoduc? Est-ce que c'était le renforcement de la prééminence russe ou alors ce positionnement d'une certaine prééminence allemande désormais comme hub justement logistique, on pourrait dire, du gaz?
Alors ce qui est affiché, c'est plutôt la question géopolitique. C'est-à-dire que les pays riverains de la mer Baltique, eux aussi émettent des réserves, ils ne sont pas sur le trajet du gazoduc, ils n'ont pas de bénéfices liés au transit gazier. Et les installations pour la construction du gazoduc se trouvent parfois proches de certaines bases navales, notamment en Suède, la base de Karlskrona. où est basée une partie de la marine suédoise. Le gazoduc passe aussi à proximité de l'île de Gotland, qui a été récemment remilitarisée par la Suède. Donc voilà, il y a plutôt une certaine inquiétude géopolitique autour de ce gazoduc, même si les questions économiques sont là en sous-jacent.
Et est-ce que ça veut dire, concernant les inquiétudes plus particulièrement de l'Ukraine, que l'Ukraine est la grande perdante désormais que ce gazoduc est validé? Il y a quelques jours, je crois, Angela Merkel a dû affirmer justement que ce gazoduc ne se ferait pas au détriment de l'Ukraine. Mais comment à partir d'aujourd'hui?
Alors, c'est un peu l'idée de cet accord européen qui a été signé il y a quelques jours. L'idée, c'est de dire... Ce gazoduc, on n'empêche pas nécessairement sa construction. En revanche, il devra être soumis aux règles européennes de concurrence et d'accès aux parties tiers. Et l'idée, c'est de dire également que en mettant ce gazoduc un peu dans le giron de la décision européenne, on va pouvoir négocier avec les Russes, en tout cas c'est l'idée, la conservation d'une partie du transit par l'Ukraine. Donc laisser en quelque sorte une certaine marge de manœuvre à l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. En tout cas, c'est ce qui est sur la table.
C'est ce qui est sur la table, sachant qu'il y a eu quelques critiques concernant cet accord, avec des dérogations qui pourraient être appliquées. C'est la députée verte, je crois, Michèle Revazi, qui le disait, dérogation et une application qui est laissée de l'accord au régulateur allemand. Est-ce qu'il n'y a pas un vice dans cet accord?
Alors, c'est un peu la question. C'est-à-dire que le marché qui a été passé finalement entre l'Allemagne et les autres pays, c'est on applique la régulation européenne sur les gazoducs extérieurs, mais c'est le premier point d'entrée sur le territoire européen du gazoduc qui négocie avec le pays tiers, donc avec la Russie en l'occurrence. Donc là, en fait, on laisserait la négociation aux Allemands.
Oui, donc il y a une certaine incertitude. Alors pour en venir à la question nécessité économique ou levier d'influence diplomatique, en quoi est-ce que, disons, cette extension des gazoducs russes, ce serait une arme diplomatiquement efficace autrement que pour négocier des tarifs gaziers?
Ce serait un peu c'est de la projection là, mais ce serait un peu la même problématique que pour le transit ukrainien. C'est-à-dire que autour des négociations d'approvisionnement, à partir du moment où vous êtes très lié à un fournisseur, évidemment, sur la question des négociations de prix, se joue tout un certain nombre d'enjeux. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les contrats gaziers russo-ukrainiens doivent être renégociés. Ils terminent leur effet au 31 décembre 2019. Donc il va y avoir toute une renégociation autour de ce transit gazier ukrainien dans l'année à venir. Et le calendrier est relativement serré puisque les Ukrainiens ont une élection présidentielle qui démarre le 31 mars. Le deuxième tour est prévu, s'il y en a un, le 21 avril. Ensuite, les Européens entrent en phase électorale pour leur Parlement. Et donc... Il va falloir que la renégociation russo-ukrainienne, à laquelle les Européens vont vraisemblablement jeter un œil, se fasse dans ce laps de temps, avant fin 2019, dans un contexte électoral compliqué.
Et dans ce contexte, le gazoduc Nord Stream 2 pourrait servir de levier. On n'a pas parlé de la position américaine, mais il y a eu une intervention et une pression assez forte des différentes autorités américaines. Le secrétaire d'État à l'énergie, Rick Perry, à la fin de l'année dernière. Mike Pompeo, qui est venu récemment en Europe et qui disait que ce gazoduc comportait un énorme risque pour la sécurité. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue américain?
Alors les Américains, ils ont un double intérêt là-dedans. Le premier, c'est que, évidemment, ils n'ont pas envie de voir leur partenaire européen augmenter sa dépendance et ses relations avec la Russie. Et le deuxième, c'est qu'ils sont eux-mêmes exportateurs de gaz. C'est le fameux gaz de schiste américain qui commence à arriver sous forme de gaz naturel liquéfié sur les côtes européennes. Pour l'instant, on est sur des très faibles montants. C'est à peu près 3% de la consommation de gaz naturel liquéfié européen. Donc c'est peu, mais ça commence à croître. En fin 2018, les montants étaient plus élevés. Et les Américains commencent à se dire qu'ils aimeraient bien vendre une partie de ce gaz naturel liquéfié aux Européens. Et donc de devenir un fournisseur un peu alternatif à la Russie.
Et est-ce qu'ils ont jusqu'ici réussi ou plutôt échoué? Parce que dans ce projet de devenir fournisseur alternatif, il y a des projets de construction de terminaux méthaniers. Mais je crois qu'aucun n'est vraiment terminé, ni en Croatie, ni en Allemagne, même s'il y a eu des promesses pour l'instant. Les États-Unis États-Unis sont encore à la porte de ce marché ?
Alors, les États-Unis sont encore à la porte de ce marché. En revanche, il y a déjà eu des effets assez intéressants de la présence de gaz américain en Europe, notamment, par exemple, en Lituanie, où les Lituaniens ont construit un petit terminal méthanier pour importer du gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis, ce qui leur a permis de renégocier les prix du gaz avec la Russie, à la baisse.
Bon, bah, un exemple effectivement de négociation qui fonctionne. On suivra celle avec l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Et merci beaucoup
pour
vos explications aujourd'hui, Angélique Padle. Je le rappelle, chercheur à l'IRSEM, enseignante à Sciences Po.